Géopolitique, Marie-France Chatin.
Bonjour et merci de nous rejoindre pour cette nouvelle édition Géopolitique dont nous vous recommandons l'abonnement dans votre application favorite de podcast. Deuxième volet de notre regard sur le bilan de Joe Biden un an après son entrée en fonction, c'était le 20 janvier 2021. Joe Biden avait annoncé une politique étrangère en rupture avec celle de son prédécesseur Donald Trump. De fait, plus de tweets grossiers, plus de revirements soudains dans la politique étrangère, plus d'insultes inattendues à l'égard de ses alliés, ni de rapprochements subis avec des gouvernements autoritaires. Biden s'est entouré d'une équipe expérimentée et intelligente. Il cherche le plus souvent à renouer avec la politique d'Obama, que ce soit par la réouverture des négociations avec les Iraniens sur le nucléaire, comme avec le retour des États-Unis au sein des accords de Paris sur le climat. Mais il y a parfois quelques continuité avec la politique de Donald Trump. On pense bien sûr au retrait d'Afghanistan, un retrait qui s'est fait dans un grand désordre, et à la relation transatlantique qui n'est plus un long fleuve tranquille. Nos invités, Suzanne Perry, professeure en sciences politiques et droit international à l'Université américaine de Paris. Bonjour.
Bonjour.
Philippe Golub, professeur de relations internationales également à l'Université américaine de Paris. Bonjour.
Bonjour.
Et par téléphone, Christophe Leboucher, journaliste indépendant, co-auteur avec Clément Perrault, des illusions perdues de l'Amérique démocrate aux éditions Vendémiaire. Bonjour.
Bonjour.
Pour faire le lien entre la politique intérieure américaine et la politique étrangère sur fond de division, comme nous l'évoquions hier, la question des ambassadeurs. Plus d'un tiers des ambassadeurs américains n'ont pas été nommés. Pas d'ambassadeurs dans les capitales européennes importantes, Berlin, Londres, Rome. Pas d'ambassadeurs depuis 2019 en Ukraine. Pas facile dans ces conditions d'établir des alliances pour contrecarrer des adversaires. Proche-Orient, pas d'ambassadeurs dans aucun des alliés de l'Amérique dans le Golfe, Arabie Saoudite, Émirats Arabes Unis, Qatar. En Asie, pas d'ambassadeur en Inde, aux Philippines, en Thaïlande, pas non plus en Corée du Sud, alors que des dizaines de milliers de soldats américains sont présents. C'est évidemment un gros problème, comme l'a déclaré le secrétaire d'État Anthony Blinken. 68 positions d'ambassadeurs sont vides sur 190. On peut rappeler que les positions d'ambassadeur demandent une confirmation par le Sénat américain. Et on a vu des sénateurs comme Josh Hawley de Missouri, Mario Rubio de Floride et surtout Ted Cruz du Texas retarder ou bloquer des douzaines de nominations. Est-ce qu'on peut mesurer, Suzanne Perry, l'impact de cette situation sur la diplomatie américaine? Et est-ce que c'est aussi ce qui explique le couac qu'il y a eu entre la France et les États-Unis à propos de l'affaire des sous-marins vendus à l'Australie?
Alors d'abord, pour avoir une politique étrangère, il faut d'abord nommer ses ambassadeurs. Donc déjà, c'est un problème d'avoir 68 nominations qui tardent. Deuxième chose dont vous n'avez pas mentionné, qui est très important, il y a eu des démissions massives du Département d'État, donc le ministère des Affaires étrangères américain, sous Trump. Et donc, parmi les 75 000 employés, d'une façon ou d'une autre, soit aux États-Unis ou dans le monde, qui étaient engagés au début du mandat de Trump, presque la moitié sont partis ou ont changé de position. Donc, ça veut dire qu'il y a une grande stabilité au sein du département d'État américain. Et donc, il y a à la fois la difficulté de placer ses ambassadeurs et la difficulté de trouver des personnes compétentes en tant que soutien pour ses ambassadeurs et pour le département d'État. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, me semble, c'est une longue histoire de refus des ambassadeurs aux États-Unis. Il n'y a rien d'étonnant. Et vous notez que certains ambassadeurs sont quand même déjà en place pour les relations qui comptent pour les États-Unis, comme Nick Byrne en Chine. Et ça, c'est peut-être le choix le plus important. Parmi tous les ambassadeurs, il n'y avait pas eu beaucoup d'hésitation quand même. C'est une question bipartisan aux États-Unis, un défi bipartisan. Donc, pour le couac, en ce qui concerne les sous-marins, Il me semble que l'Australie était peut-être en membre du Quad, donc les quatre pays en Asie qui soutiennent la politique américaine par rapport à la Chine. C'est plus l'Australie qui n'a pas fait le boulot que l'administration Biden. Ça, c'est ma façon de voir la situation.
Mmh. Alors, pour suivre, on va en reparler, hein, et on parlera du Quad pour repréciser qui en fait partie. En tout cas, Christophe Le Boucher, ce qu'on peut dire, c'est tout de même... C'est mauvais pour l'image des États-Unis et ça alimente cette question d'absence de nomination d'un certain nombre d'ambassadeurs. Ça alimente la perception d'un retrait de l'Amérique, voire de son déclin. Enfin, plus qu'une affirmation, c'est une question. Christophe Le Boucher.
D'un côté, Biden voulait rompre avec Trump en revenant au multilatéralisme, là où Trump préférait le bilatéralisme et une approche assez transactionnelle de la géopolitique. Biden avait cette ambition de faire revenir les États-Unis au centre de la table. Après, il y a différentes décisions qui ont été prises qui peuvent laisser penser que la puissance américaine est en déclin, mais on voit en même temps qu'il y a une confrontation beaucoup plus accrue à la fois avec la Russie et la Chine. Donc c'est peut-être un peu trop tôt pour parler de déclin ou de recul. Et ces dysfonctionnements sont comme Madame Perry le disait, sont quand même assez fréquents, on va dire, dans les transitions entre les différentes administrations.
Alors, confrontation plus accrue avec la Russie et la Chine, on en parlera. Je reviens avec vous, Philippe Golub, sur ce que j'évoquais en introduction, volonté de rupture de la part de Joe Biden par rapport à la politique étrangère de Trump. Le seul cas qui, lui, marque une continuité, c'est la question afghane.
Ce n'est pas le seul cas. Il y a des continuités aussi dans la politique générale qui est menée vis-à-vis de la Chine. La perception de la Chine comme un problème stratégique central de la diplomatie américaine au XXIe siècle. Il y a l'Afghanistan, comme vous l'avez dit très justement. Il y avait un consensus au sein des élites politiques américaines, des élites de politique étrangère américaine au cours de la dernière décennie qu'il fallait effectivement sortir les États-Unis des bourbiers afghans et irakiens, des guerres interminables initiées par George W. Bush, qu'il fallait reconcentrer, rediriger les ressources américaines stratégiques et économiques vers l'Asie orientale en particulier, du fait du défi chinois. Donc sur cette question-là, il y a eu un consensus des élites de politique étrangère et de sécurité américaine, avec une minorité interventionniste qui avait une vision différente. Mais le consensus central était que les États-Unis devaient diminuer l'exposition américaine au risque au Moyen-Orient et dans le Golfe et recentrer les efforts américains sur l'Asie orientale. Donc l'affaire afghane, aussi mal menée fut-elle, l'affaire afghane de Biden est dans la continuité générale des politiques américaines suivies depuis Obama. C'est Obama qui initie ce processus et le consensus existe, le consensus large, pas unanime, mais large existe sur ce sujet depuis ce moment-là. Encore une fois, les deux affaires sont liées, l'affaire chinoise et l'affaire moyen-orientale. Car le problème pour les États-Unis, comme nous le savons tous, dans les années à venir et dans les décennies à venir, c'est l'émergence d'une très grande puissance chinoise, une puissance non seulement en Asie orientale, mais une puissance devenue mondiale. Et donc, il y a des éléments de continuité importants. Le multilatéralisme, c'est de la forme, c'est important, la forme, c'est important. Mais sur le fond, il y a des priorités américaines qui sont définies structurellement pour la nature du système international lui-même.
Alors, priorité américaine, la Chine, on y reviendra. On avait tout de même le sentiment d'une certaine trêve. Mais avec vous, Suzanne Perry, juste, et on fermera le dossier afghan, tout de même, ce départ américain d'Afghanistan en août dernier a causé beaucoup de tort à Joe Biden en interne aux États-Unis.
Et c'est tout à fait normal. Donc, la France a planifié sa retrait afghan, tandis que les États-Unis, nous avons l'impression que c'était fait un peu à la va-vite. Donc je trouve ces critiques tout à fait normales. Les États-Unis sont suffisamment capables d'organiser un retrait plus ordonné que la retrait qu'on a vue à la télévision. On a entendu ce que vous avez aussi présenté lors de cette émission concernant ce genre de retrait très désordonné. Les États-Unis n'étaient pas le seul pays désordonné dans le retrait. La Grande-Bretagne, par exemple, n'était pas très bien organisée.
Alors,
non plus.
C'était réservé aux anglo-saxons ?
Anglo-américains, oui.
Il n'y a plus de saxons.
Oui.
Aux anglo-américains. Alors, le dossier actuellement au sommet de l'actualité en Europe et de l'agenda américain, c'est la relation avec la Russie. Joli coup de Poutine tout de même d'avoir mené une politique depuis plusieurs mois en faisant monter la pression à la frontière ukrainienne qui l'a conduit à des négociations au sommet avec Joe Biden en excluant l'Europe. Un coup de maître que les Américains semblent ne pas avoir vu venir, alors que ce sont eux qui ont prévenu les Européens de la concentration de troupes russes. Est-ce qu'on peut dire que Poutine est maître du jeu face aux États-Unis dans sa volonté de faire reconnaître par les États-Unis la ligne qu'il veut instaurer autour de l'ancien espace soviétique ? Philippe Goulube.
Poutine sait que le problème, le cœur du problème américain au niveau international aujourd'hui et à l'avenir, c'est la Chine. Et il y a aux États-Unis des voix non négligeables d'ailleurs au sein de la diplomatie américaine, au sein des structures de sécurité américaines qui plaident pour un changement de la politique américaine vis-à-vis de la Russie pour disloquer l'alliance russo-chinoise qui était en voie de formation. Et Poutine le sait très bien et il joue justement sur cette difficulté, ce problème de la diplomatie internationale des États-Unis, qu'il sait très bien que les États-Unis ne veulent pas d'une Russie alignée sur la Chine et que les États-Unis devront nécessairement faire quelques concessions à la Russie sur certains dossiers pour y arriver. La question, c'est quelles concessions, dans quelles conditions et est-ce que c'est au mépris de la sécurité européenne ? Donc il y a une énorme difficulté américaine là, c'est d'essayer de construire des relations raisonnables avec la Russie pour mettre fin à, ou du moins desserrer l'alliance russo-chinoise tout en préservant les structures de sécurité européenne traditionnelles atlantiques mises en œuvre depuis 1947. C'est une très grande difficulté pour les États-Unis.
Alors, on y reviendra avec vous, Suzanne Perry, vous qui êtes cynisante. Christophe Le Boucher, un commentaire sur cette question de la politique américaine vis-à-vis de la Russie, ce coup de maître de Poutine d'une certaine manière aussi et l'exclusion des Européens.
Alors sur le coup de maître, moi je n'ai pas forcément les compétences pour qualifier la politique de Poutine. Par contre, ce que j'observe, c'est qu'il y a quand même eu un revirement. D'abord, il faut rappeler qu'Obama était assez partisan d'un dialogue apaisé avec la Russie. Et en fait, lorsque Trump est arrivé au pouvoir, l'appareil d'État, certaines factions à Washington et le Parti démocrate de manière générale a poussé une ligne très dure vis-à-vis de la Russie, en partie en utilisant ou en réponse aux allégations de manipulation des élections et de collusion entre Trump et la Russie, ce qui fait que Trump a du coup adopté une ligne beaucoup plus dure qu'Obama vis-à-vis des Russes, par exemple en autorisant la vente d'armes ou le transfert d'armes en Ukraine. Ce qui a aussi radicalisé probablement la position russe. Et ça, c'était une rupture avec la ligne Obama. Et Biden essaye un petit peu d'apaiser le discours, mais bien sûr, la position russe a évolué entre-temps. Un autre point de crispation, c'est le pipeline, le gazoduc Nord Stream 2 qui doit passer, qui doit alimenter en particulier l'Allemagne. Et là, c'est les Républicains, en particulier Ted Cruz au Sénat, qui protège les intérêts économiques des producteurs américains, en particulier du Texas, qui essaye de faire échouer ce projet qui est capital pour les intérêts économiques russes. Donc il y a différents niveaux et différentes lignes des États-Unis vis-à-vis de la Russie qui sont aussi en compétition.
Suzanne Perry, à propos de l'Ukraine toujours, de la relation de Washington avec Moscou, et je l'ai dit précédemment, les Américains, ce sont eux qui ont prévenu les Européens de la concentration de troupes russes. Alors, d'aucuns ont dénoncé la passivité américaine ou l'imprévoyance américaine, en tout cas, que Washington n'a pas vu le coup d'après pour Poutine. Vous en pensez quoi ?
D'abord, ça a l'air d'être une réussite, mais il faut peut-être regarder un petit peu plus large. D'abord, qui était envoyé par les États-Unis ? Wendy Sherman, qui n'est pas connue pour être facile. Donc, les États-Unis ont choisi d'envoyer une négociatrice qui ne va rien céder du tout. Donc déjà, c'est presque les négociations pour la forme. Et peut-être c'est pour ça que la présence des Européens n'était pas nécessaire. Parce que ce n'était pas une négociation qui allait aboutir en envoyant Mme Sherman. C'est peut-être le point de vue. Aussi, du point de vue de Poutine, il a des difficultés au Kazakhstan. OK, il a envoyé ses troupes pendant au moins quelques semaines, etc. Mais il y avait eu quand même un coup d'État interne. Le problème Bélarus perdure. Le problème avec l'Ukraine. Il a toujours des difficultés avec Géorgie. Encore, il a pris de territoire, mais ça reste un problème. Le problème de Nord Stream 2, c'est pas un chef d'État qui réussit à calmer
son environnement.
Donc, il y a des défis en permanence. Donc, je dirais qu'il a des coups de bluff, les coups de maître de temps en temps. Mais au long terme, c'est un chef d'État en difficulté. Voilà.
Poutine, un chef d'État en difficulté. Alors, Philippe Golub, sur l'exclusion des Européens, Suzanne Perry disait que voilà, cette conversation entre Washington et Moscou n'avait pas besoin des Européens. Effectivement, nous, les Européens, ne l'ont pas entendu de cette manière-là. Et ils ont tout de même le sentiment qu'on s'occupe de leur sphère géographique par-dessus leur tête.
Oui, ça, en réalité, il faut le dire. Moi, je comprends très bien la frustration européenne, mais il faut le dire, ça a toujours été le cas. Je veux dire, dans l'Alliance Atlantique, dans l'OTAN, les États-Unis ont toujours été primus inter pares, et la voix des alliés des États-Unis au sein de l'OTAN a toujours été relativement marginale par rapport aux États-Unis. Le manque de concertation dans cette histoire illustre cette disparité de puissance, mais illustre cette disparité à un moment où la crédibilité américaine est moins forte qu'elle ne l'était pendant la guerre dite froide, n'est-ce pas ? Donc la manière, encore une fois, la manière de faire de la diplomatie américaine sous Biden semble être pas tout à fait aussi professionnelle qu'elle pourrait l'être de ce point de vue-là. Mais ça illustre autre chose, c'est que les États-Unis pensent que l'Europe est marginal dans le jeu international. Et ça se voit depuis Obama, d'ailleurs, ça se voit avant Obama, mais depuis Obama, c'est tout à fait clair.
Et il n'y a pas que Biden qui le pense, Poutine le pense également.
Poutine sait que les États-Unis considèrent que l'Europe occidentale est relativement marginale au niveau diplomatique dans ces histoires, bien que l'Europe compte économiquement énormément pour la Russie, comme le pipeline, le pipeline le suggère. Non, je pense que effectivement, Poutine est un dirigeant en difficulté. C'est une société qui est en difficulté. L'économie russe va très mal. La société ne va pas bien non plus. L'environnement stratégique de la Russie est instable. Et ce qu'il tente de faire, ce que tente de faire Poutine, c'est de se remettre au centre du jeu diplomatique et stratégique international. Et sur ce plan-là, il a réussi. Le fait que les États-Unis négocient est pour lui déjà une réussite.
C'est ce qu'il voulait, priorité. Christophe Leboucher, un commentaire, peut-être sur la relation transatlantique aussi. On imaginait, je le disais en introduction, une relation transatlantique qui soit un long fleuve, qui connaisse un retour à un long fleuve tranquille. Il n'en est pas grand-chose.
Oui, l'affaire des sous-marins l'a montré. Pour les États-Unis, l'Europe est un acteur très important qui... C'est plutôt quelque chose qu'ils considèrent en second lieu. Donc, il y a cette réalité. Et puis, il y a aussi la volonté de faire ce fameux pivot dont Obama avait parlé vers l'Asie, qui fait que la tension américaine se porte moins sur l'Europe et plus autour de l'Asie.
C'est ce sur quoi, Philippe Golub.
Oui, il faut retourner encore une fois dans l'histoire. Il faut se souvenir, par exemple, sous Nixon, de la décision unilatérale des États-Unis de mettre fin au système de Bretton Woods, au système monétaire de Bretton Woods, qui a été fait sur le dos de l'Europe, n'est-ce pas, sur le dos de l'Europe. Et à ce moment-là, Connally, le secrétaire au Trésor américain de l'époque, avait dit à une délégation européenne qui était arrivée à Washington pour se plaindre que le dollar, c'est notre monnaie. comprenez, mais c'est votre problème. Hein. Les États-Unis n'ont jamais considéré l'Europe en tant qu'Europe comme un acteur politique. Henry Kissinger disait à son époque, à lui, l'Europe, à qui dois-je appeler pour parler à l'Europe? Donc le problème, en fait, est un problème pas simplement de la vision américaine par rapport à l'Europe, c'est aussi de la capacité européenne à créer des institutions européennes qui soient effectivement un acteur unifié sur le plan international. Et on en est très, très loin aujourd'hui.
On le voit bien avec une majorité de pays européens qui préfèrent se placer sous l'aile américaine. On vous retrouve, Philippe Gloub, avec Suzanne Perry et Christophe Leboucher. Après le journal, à tout de suite.
Priorité santé. Géopolitique. Marie-France Chatin.
Géopolitique, regard sur la politique étrangère de Joe Biden. Nous retrouvons nos invités, Suzanne Perry, professeure en sciences politiques et droit international à l'Université américaine de Paris. Philippe Gloub, professeur de relations internationales également à l'Université américaine de Paris. Et Christophe Leboucher, journaliste indépendant et co-auteur avec Clément Perrault des Illusions perdues de l'Amérique démocrate aux éditions Vendémiaire. Suzanne Perry, on a parlé de la politique de rupture de Joe Biden par rapport à Donald Trump en termes de politique étrangère, continuité sur un certain nombre de sujets. On aborde la question chinoise, comme le disait Philippe Gloub dans la première partie de l'émission. La politique chinoise de Joe Biden est en continuité parfaite avec celle de Donald Trump. On a pourtant l'impression d'une, vue de l'extérieur, je ne vais pas dire parler de trêve, mais voilà, que les choses sont moins, alors peut-être aussi moins spectaculairement annoncées avec Joe Biden qu'elles ne l'étaient avec Donald Trump. Trêve ou pas trêve entre Washington et Pékin ?
Il n'y a pas de trêve. Et donc, les États-Unis ont très peu de temps pour réagir à la question taïwanaise. Et il faut le faire demain, tardard. Ça veut dire que les États-Unis et la Chine ont besoin... Ça, je parle là, c'est un point de vue de la plupart des spécialistes de la Chine aux États-Unis. Il faut instaurer des pourparlers organisés sur le sujet de Taïwan, peut-être mensuel, entre une équipe chinoise qui a un lien direct avec Xi Jinping et une équipe américaine avec un lien direct avec Joe Biden, pour parler de ce problème de compréhension. Donc, pour la Chine, ils n'ont pas changé leur ligne politique depuis 1972. C'est le Taïwan qui a changé et les États-Unis qui ont changé avec le Taïwan. La Chine se sent cernée sur le côté est et a besoin de comprendre jusqu'où les États-Unis sont prêts à aller. Et les États-Unis doivent comprendre dans quelles circonstances les Chinois pouvaient organiser ce qu'on appelle l'invasion. Il n'y aura peut-être jamais une invasion militaire directe, mais une menace très sérieuse pèse sur l'île en ce moment. Et donc, le fait qu'il y a ce trêve qu'on constate en ce moment est très mauvais signe pour moi. Ça veut dire que les États-Unis doivent prendre l'initiative, proposer à la Chine ce genre de réunion mensuelle sur, uniquement sur le sujet de Taïwan, pour se comprendre et pour garder les liens de communication ouverts.
Il n'est plus question, parce qu'on a l'impression que d'une certaine politique de l'autruche, Philippe Gloub, je ne sais pas si ça correspond à la réalité ou pas, mais chacun a peut-être ses propres lignes rouges sans que ce soit exprimé. Et ce que nous dit là Suzanne Perry, c'est qu'il est temps d'arrêter de faire la politique de l'autruche, peut-être côté américain, pour vraiment mettre sur la table la question de Taïwan, les choses à ne pas dépasser, les limites à ne pas dépasser, et que chacun puisse se positionner et exprimer ouvertement sa vision des choses.
Mais les positions sont bien connues des deux côtés. La diplomatie américaine a toujours mener une diplomatie vis-à-vis de Taïwan qui est une ambiguïté, c'est-à-dire une politique d'ambiguïté stratégique, c'est-à-dire de ne pas annoncer à l'avance quelle serait éventuellement l'action américaine en cas d'attaque de la Chine continentale sur Taïwan, laissant la question ouverte et donc créant pour la Chine une difficulté d'action puisqu'ils ne savent pas quelle serait la réaction américaine. Des deux côtés, les positions sont claires et nettes, il y a des lignes rouges des deux côtés. et les possibilités d'affrontement sont réelles. Mmh. On est là dans une situation d'affrontement potentiel réel entre la Chine et les États-Unis, pas seulement sur Taïwan, Taïwan essentiellement, mais aussi en mer de Chine du Sud. Donc aucun expert des relations internationales aujourd'hui ne sous-estime la possibilité d'un choc sans doute non voulu, mais d'un choc entre la Chine et les États-Unis, avec des escalades dont on ne connaît pas, on ne peut pas aujourd'hui mesurer les conséquences. Est-ce qu'il est possible de créer ce que Susan Perry suggère, c'est-à-dire le genre de comité permanent de liaison des deux côtés entre les États-Unis et la Chine pour s'assurer qu'il n'y ait pas de choc futur? Il est toujours possible de discuter. Pour l'instant, ces institutions ne sont pas en place. Les deux établissements militaires, d'un côté comme de l'autre, se parlent, mais de façon non institutionnalisée. Est-ce que l'institutionnalisation de discussions, comme pendant la guerre froide avec l'Union soviétique, permettrait de résoudre le problème stratégique en mer de Chine du Sud et à Taïwan? Je ne le pense pas. Nous sommes dans une forme de rivalité stratégique structurelle qui va s'approfondir dans le temps, d'autant plus que le nationalisme chinois s'affirme de plus en plus puissamment. D'un côté, et que du côté américain, les États-Unis n'acceptent pas l'idée que la Chine devienne la puissance prédominante en Asie orientale et encore moins dans le reste du monde. Donc on est dans une logique d'affrontement où les risques grandissent de jour en jour, où la diplomatie peut jouer un rôle, mais ce rôle sera secondaire aux grandes évolutions stratégiques.
Alors j'ai cette question par rapport à ce qui s'est dit précédemment quant à l'alliance russo-chinoise. Est-ce qu'on peut imaginer une répartition des rôles, un accord entre Pékin et Moscou, avec d'un côté Vladimir Poutine donc, qui masse des troupes à la frontière ukrainienne pour mettre la pression sur cette région du monde et distraire d'une certaine façon les États-Unis de leur objectif de la relation avec la Chine. Je vais vous passer la parole, Christophe Boucher, mais j'aimerais juste que Susan Perry me réponde là-dessus.
Donc déjà, il y a une conversation régulière entre la Russie et la Chine sur ces sujets. Donc il n'y a aucun doute qu'il y a une certaine coordination. Ça, c'est sûr. Ce qui m'inquiète le plus, c'est le point de vue chinois en ce qui concerne la nouvelle route de la soie et l'idée que leur influence peut s'étendre jusqu'en Europe. La réponse, pour moi, devrait être européenne vis-à-vis de la Chine. Déjà, il y a une petite présence en Pacifique de la part de la France et d'autres puissances européennes. Mais pour le moment, sans politique commune de la part de l'Union européenne, la coopération entre la Russie et la Chine va s'accroître.
Christophe Leboucher, votre opinion ?
On voit que les États-Unis sont quand même sur une ligne très dure et qui a tendance à se durcir. Et comme le disait Philippe Golub, ça peut créer des incidents, y compris une escalade qui n'aurait pas été voulue. Il faut voir qu'aux États-Unis, il y a d'abord, avec Trump, il y avait une sorte de confrontation économique vis-à-vis de la Chine. Et ce qui fait que le Parti républicain maintenant pousse pour une confrontation toujours plus violente, entre guillemets, avec la Chine, au moins sur les aspects économiques, mais également diplomatiques et géopolitiques. Et il y a aussi, au sein de l'administration Biden, une influence importante de ce que Eisenhower appelait le complexe militaro-industriel. Il faut voir que beaucoup de diplomates ou de responsables qui ont été nommés par Biden sont des anciens des équipes d'Obama qui ont passé la présidence Trump dans le privé à faire du conseil pour les sociétés d'armement. Donc tout ça provoque une approche qui ne favorise pas nécessairement la détente et la diplomatie en parallèle de ce que peut, de l'autre côté, être la position chinoise ou russe.
Philippe Golub.
Le complexe militaro-industriel existe des deux côtés. Hein. Il y a un complexe militaro-industriel chinois, il y a le grand complexe militaro-industriel américain qui existe depuis le début de la guerre froide. Donc c'est des deux côtés. Il y a des formations militaristes, pourrait-on dire, des formations sociales militaristes des deux côtés, comme il y en a dans d'autres pays, comme la Russie, n'est-ce pas? Donc je pense que le facteur explicatif essentiel ici, ce sont des dynamiques en cours. Sur l'économie internationale, le fait que l'administration Biden, dans l'article que j'ai écrit dans Le Monde diplomatique à ce sujet au mois de novembre, le fait que l'administration Biden, comme l'administration Trump met en œuvre des mesures coercitives commerciales ou de sécurité vis-à-vis des firmes américaines et des firmes chinoises est une chose, mais de l'autre côté, il faut regarder les flux de capitaux. Mmh. L'économie chinoise, sous Trump, les flux de capitaux rentrant en Chine, venus des États-Unis, de l'Europe ou des îles Caïmans, des grandes firmes financières internationalisées, Goldman Sachs, tout cela, ont été beaucoup plus larges qu'avant Trump. Mm-hmm. Donc toutes les mesures de rétorsion commerciale de Trump, la guerre dite commerciale, en réalité, n'a pas du tout empêché la Chine d'être le récipiendaire essentiel des flux de capitaux transnationaux venant essentiellement, mais pas seulement des États-Unis, pendant cette période, et ça continue aujourd'hui. Et donc, en fait, l'État chinois sait très bien que des éléments très importants, très significatifs, très influent du capitalisme américain et du capitalisme européen, du capitalisme transnational, investissent la Chine, ont un intérêt essentiel à continuer à investir la Chine. La Chine restant aujourd'hui, même de façon diminuée, le centre de croissance de l'économie mondiale pour l'instant. Donc la Chine a une double posture, à la fois d'ouverture vis-à-vis des capitaux internationaux et de diplomatie nationaliste très affirmée vis-à-vis du reste du monde sur les questions stratégiques. Et Biden, là, a un problème essentiel, c'est qu'il ne peut pas contrôler ces flux de capitaux. Il ne peut pas interdire les flux de capitaux, sauf à remettre en cause l'architecture économique et financière internationale mise en œuvre depuis la fin de la guerre froide.
Ah, Suzanne Perry. Et c'est pour ça qu'on a besoin des pourparlers. On a besoin même si Philippe Golub croit que ça ne servira peut-être pas grand-chose, je crois qu'on n'a pas assez de chaînes de communication entre les deux pays en ce moment. Il y a les chaînes privées qui existent, mais les chaînes publiques sont très diminuées, surtout depuis George Bush. Mm. Et donc, il faut absolument répondre à cela le plus vite possible, parce que l'accident, un conflit dû à un accident d'interprétation est très probable, je dirais, dans les années à venir. Il faut réagir vite, à mon avis.
Et le choix, puisqu'on en parlait dans la première partie de l'émission, le choix de l'ambassadeur des États-Unis à Pékin.
Excellent. Donc, nous connaissons à l'Université américaine de Paris, Ken Burns, et nous trouvons que c'est l'homme pour le travail en ce moment. Il est déjà en poste. Mais comme dit Philip Golub, le marge de manœuvre est assez étroite. Et le marge de manœuvre de Xi Jinping également est très étroite. Et donc, du coup, c'est la raison pour laquelle, moi, je préconise une série de réunions régulières sur beaucoup de sujets, pas uniquement pour le commerce, comme ça se fait actuellement, mais sur plusieurs sujets, y compris le Taïwan.
Alors, est-ce qu'on peut précisément imaginer que cette deuxième année à la Maison-Blanche pour Joe Biden sera, étant donné les difficultés qu'on a évoquées dans l'émission d'hier, en interne, avec ces conflits, cette Amérique divisée, plus d'attention en 2022 de la part de Joe Biden en politique étrangère?
Est-ce que ce sera Philippe plus affirmé en politique étrangère? Le monde intervient constamment dans le processus politique domestique des États, donc des États-Unis comme des autres États. Les opportunités de crise, les possibilités, les potentialités de crise sont multiples. On le voit avec l'Ukraine, la Russie et l'Ukraine. On le verra dans les années à venir au sujet de Taïwan. Ce qui me semble évident, c'est que les grandes questions stratégiques vont rester au cœur de la problématique de cette administration comme de celle qui va suivre, n'est-ce pas? Parce que ces dossiers sont des dossiers qui durent dans le temps, ça ne va pas disparaître. La Chine, aujourd'hui, ne va pas disparaître. Quand on écoute les chercheurs chinois, j'ai participé à une conférence hier, quand on écoute les chercheurs chinois parler de la position de la Chine vis-à-vis de l'Indo, de la nouvelle idée stratégique américaine d'Indo-Pacifique, les Chinois considèrent, eux, qu'ils sont dans une situation d'encerclement potentiel de la part des États-Unis et de leurs alliés. En tout cas, les États-Unis tentent d'encercler la Chine par une série d'alliances, le Quad et d'autres, et que leur réponse à cela, c'est ce qu'ils disent eux, leur réponse à ça, c'est la régionalisation, c'est intensifier les liens régionaux de la Chine avec les pays limitrophes, mais aussi dans le monde par les routes de la soie. Donc, on est dans des dynamiques qui sont déjà installées, dont les résultats ne sont pas connus pour l'instant. Ce n'est pas certain qu'il y aura conflit, mais il n'est pas certain non plus qu'il y aura paix. Donc, je pense que Biden sera inévitablement confronté dans les deux années à venir, trois années à venir de sa présidence, à des problèmes de politique internationale qui vont exiger toute son attention.
Alors, dans l'actualité immédiate, la question du boycott des Jeux Olympiques de Pékin, votre commentaire. Et puis, ce sommet pour la démocratie organisé par Joe Biden à la fin de l'année dernière, était-ce une bonne idée, Suzanne Perry?
Alors d'abord, les Jeux Olympiques, la présence diplomatique est boycottée, donc les athlètes peuvent participer, ce que je trouve une très bonne chose. C'est boycotté en raison des violations des droits de l'homme en Xinjiang. Et ces violations sont bien réelles, constatées. Même la Chine les a, pas en tant que violation, mais a reconnu les camps de rééducation. Donc je crois qu'il fallait répondre. Je n'ai aucun problème avec ce boycott diplomatique des Jeux Olympiques. Quand même, c'est une opportunité d'engager la Chine par d'autres moyens. Et le plus tôt, le mieux c'est.
Alors la question du sommet pour la démocratie qui justement excluait la Chine, excluait la Russie.
Il y avait quelques diapositives taïwanais qui montraient une certaine indépendance de Taïwan qui n'était pas très bien reçue par la Chine. Donc c'était une belle initiative qui, à mon avis, n'a servi à rien de concret. Voilà.
Sauf peut-être à cliver davantage encore.
Oui, c'était une action symbolique qui en fait n'était pas très bien engagée, pour dire la vérité, au plan de la préparation diplomatique, comme beaucoup d'autres choses en ce moment. Il manquait de la préparation et de la planification dans l'organisation et au niveau des idées, de la structuration de tout ça, parce qu'il y avait plein de pays participant à cette conférence qui n'étaient pas véritablement démocratiques.
C'est vrai. Donc, c'était finalement assez partial comme choix.
C'est mal préparé.
Alors, il y a deux dossiers sur lesquels j'aimerais qu'on poursuive. Il nous reste 4 minutes à peine pour terminer cette émission. C'est la question du dossier iranien qui ne fait pas la une des journaux, mais qui menace le Moyen-Orient d'une véritable révolution. Le retour des États-Unis dans la négociation et cette volonté de l'Europe et des États-Unis de parvenir à un accord, est-ce que Européens et Américains ont raison? Et puis quelques mots sur l'Afrique aussi. Alors ça, c'est une vraie rupture, je pense, aussi avec la politique de Donald Trump. On a vu le secrétaire d'État Anthony Blinken faire sa tournée africaine à l'automne afin de réparer les dégâts sous Trump, continent négligé et méprisé. Il a exprimé le désir d'un nouveau départ et d'un dialogue renouvelé à l'occasion de sa tournée dans 3 pays africains, partenaires historiques des États-Unis, le Kenya, le Nigeria et le Sénégal. Christophe Leboucher, vous souhaitez dire quelques mots ?
Sur l'Iran, peut-être. Biden est quand même tributaire de la rupture engagée par Trump, donc le retrait de l'accord et puis les sanctions drastiques qui ont été imposées à l'Iran et qui provoquent énormément de souffrance dans la population et de déstabilisation. Et ensuite, l'assassinat par cette frappe du général
Soleimani.
Figure du régime, voilà, Soleimani. Donc tout ça, ça crée forcément, après, difficile de rétablir une relation de confiance et des négociations avec l'Iran. Et il y a aussi, il faut savoir qu'il y a aussi quand même l'influence politique aux États-Unis de l'État d'Israël, du gouvernement actuel israélien plus précisément, qui cherche, lui, à pousser Biden vers une position dans la continuité de Trump assez dure vis-à-vis de l'Iran et d'éviter toute négociation.
Alors ici en studio, Philippe Golub et Suzanne Perry.
Trump a réussi cette prouesse tout à fait extraordinaire à remettre au pouvoir en Iran l'aile la plus dure du régime, à marginaliser le centre du système politique iranien et en même temps à souder la relation entre l'Iran et la Chine. Et donc les relations irano-chinoises aujourd'hui sont beaucoup plus développées qu'il y a 5 ans. Donc c'est véritablement un exploit diplomatique de la part de la présidence Trump. Il est très difficile aujourd'hui de revenir en arrière, puisque le nouveau régime iranien n'est pas très chaud sur les négociations en cours. D'ailleurs, ils sont au seuil, ils sont pas loin du seuil nucléaire, et on ne voit pas pourquoi et en quelles circonstances ils abandonneraient leur capacité nucléaire potentielle aujourd'hui, étant donné les variabilités, disons ça comme ça, de la politique étrangère américaine, n'est-ce pas ? Donc, les États-Unis se trouvent là encore devant une très grande difficulté, créée par l'administration Trump, mais aussi par une politique qui ne sait plus exactement comment naviguer la question du nucléaire au Moyen-Orient.
Suzanne Perry, en guise de conclusion.
Alors, l'Afrique, last but not least, il faut une politique commune entre l'Europe et les États-Unis en Afrique. J'ai travaillé sur l'Afrique pour le département d'État, même sous Trump. Donc, on était quand même actifs. Et c'est une opportunité de coopération qui devrait être saisie le plus vite possible. Voilà.
Merci. C'est la fin de Géopolitique. Merci, Suzanne Perry. Je rappelle que vous êtes professeure en sciences politiques et droit international à l'Université américaine de Paris. Philippe Golub, professeur de relations internationales également à l'Université américaine de Paris. Et Christophe Leboucher, qui était avec nous par téléphone depuis Amsterdam, journaliste indépendant, co-auteur avec Clément Perrault, des illusions perdues de l'Amérique démocrate aux éditions Vendémiaire. Géopolitique était signée Marie-France Chatin, Cécile Lavolo et Laurie Plisson. À samedi.